on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bien oui, toi. C'est le midi qu'on en jase et il est précisément midi. Donc, Gilto. Gilto, Pascal, d'après toi, y a-tu un appareil? J'allais dire, tu fais ajuster ton appareil. Par exemple, je suis rempli de préjugés, moi, là.
Un peu.
Ça n'a pas de sens que j'aille penser ça. Désolé, guys. Envoyez-moi vos critiques au 418-971-1021. C'est l'émission On en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Vous pouvez nous écouter aussi sur la web radio via le blvd.fm et nos meilleurs moments se retrouvent sur le site web. L'application BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Également twitch.tv/BLVD/FM. On a encore une fois un très bon show pour vous. Ce sera le caucus Iacarini dans quelques instants. Rémi Villemur va venir faire sa chronique à 13h. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal va venir nous parler de baisse d'exportation pour le Québec et également de gens qui quittent l'urgence. Plus de 11% des gens qui quittent l'urgence sans avoir été vus.
Après 8 heures et plus d'attente,
c'est
là,
ça.
J'ai fait ça, moi, il y a 3-4 semaines.
Sérieux? Oui, oui.
Ouais. Ouais, ouais.
Combien de temps?
Ben, c'était pas que c'était tant de temps, c'est juste que c'était la nuit. Et on s'est vraiment découragé, puis on s'est retourné vers une autre solution. Là, je veux juste dire, j'ai l'air bizarre d'aller à l'urgence pour rien, mais je vous explique rapido.
Ben oui, vas-y.
Mon fils est blessé sur du métal rouillé.
Oh, 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 oh.
Puis après, je me suis dit, il y a eu ses vaccins, il est correct. Puis après ça, j'ai vérifié, puis c'était déjà passé 24 heures. Puis non, il y avait un rappel de tétanos qu'il n'y avait pas eu. Puis là, on était vendredi soir. J'ai essayé de trouver une solution autre qu'aller à l'urgence. J'en trouvais
oublie
pas.
Ça.
Donc, je suis allée. Puis finalement, je me suis découragée. Mm-hmm. En plein milieu de la nuit, à un moment donné, j'ai quitté. Puis finalement, on a découvert une clinique de vaccination, en passant, que je savais même pas qu'il existait sur le boulevard Hamel, qui vaccine le samedi. Donc,
vous êtes allé le lendemain.
C'est grâce à notre pharmacienne qu'on a trouvé ça. Mais tout ça pour dire que je fais partie de la statistique des gens qui ont sacré leur camp.
Mais
découragé.
Dans une salle d'attente, là, on peut-tu en plus convenir qu'il n'y a rien de confortable? Si t'es là puis t'as déjà une douleur, clairement, t'es pas là parce que tu pètes le feu puis mon Dieu, t'es donc bien en forme. Là. Dans une chaise froide, si t'as la chance d'y être, où on va aller te voir après 2-3 heures, où des fois il y a un environnement un peu hostile, des gens en grande douleur, des gens en désorganisation.
Santé mentale. Vraiment.
Tu sais, ça peut être très perturbant, là.
Ben
ça,
oui.
Ça peut te rendre, toi, en détresse aussi, au-delà de ton mal. Puis à un moment donné, tu te dis, ben tant qu'à passer dans 8 heures, tant qu'à passer dans 10 heures, je vais aller prendre mon mal en patience à la maison, puis je vais voir s'il n'y a pas une autre ressource le lendemain. L'affaire, c'est que ça peut envenimer des cas. Puis l'autre affaire que je trouve super triste dans ça, puis j'ai hâte de parler avec Gabriel Giguère, Jeff, là, c'est à quel point on pourrait pas avoir un genre de ticket qui dit « ben tu vas passer approximativement dans tant de temps
».
Ça pourrait même laisser un certain lousse à des évaluateurs. T'arrives, tu te fais trier, puis si t'es pas la priorité, tu ne restes pas nécessairement dans la salle d'urgence.
Ben oui,
tu peux retourner pendant 7-8 heures, aller dormir chez toi et revenir le lendemain. Puis je me demande si ça désengorgerait pas non plus ces salles d'urgence.
C'est une très bonne question à poser à Gabriel. Je trouve que c'est une belle piste de solution.
Au moins tenter et explorer la possibilité, mais...
Est-ce qu'on ouvre également plus de télémédecine?
Tellement des solutions à annexer, oui.
Voyons voir, on va parler de ça avec Gabriel. Et on va finir l'émission avec Jimmy Pelletier, un être humain tout simplement exceptionnel. Jimmy a perdu l'usage de ses jambes et il est présentement dans un tour du monde. Oui, oui, 23 pays, 40 000 kilomètres en vélo à bras pour Adaptavie, pour leur permettre d'avoir un centre qui va justement... permettre aux personnes qui vivent avec un handicap de faire du sport, de pratiquer l'activité physique. Il avait fait le tour du Canada, j'y vais de mémoire, là, je ne me trompe pas, c'était en 2022. Et là, il fait le tour du monde. Donc, c'est vraiment exceptionnel, un être
quel
de
défi sportif
classe.
Pour une bonne cause.
Exactement. Et on se lance immédiatement, comme à l'habitude, du lundi au jeudi avec le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Le caucus Iacarini avec Antonine Iacarini. Anto, ça va bien?
Très bien. Hey, on a du stock encore, hein?
On a beaucoup de stock. Et là, il faut que tu me démêles. Mon petit cerveau comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe là avec le Québec, la loi sur la laïcité, la clause dérogatoire?
La Cour suprême.
Ouais, la Cour suprême, gouvernement du Canada qui veut pas trop parler contre la laïcité, mais qui parle contre la clause dérogatoire. Là, je comprends plus rien.
Bon. On fait un rappel des faits. On a une loi sur la laïcité qui a été votée en 2019 au Québec, projet de loi 21. Sans surprise, étant donné que ce projet de loi-là vient un peu à l'encontre de la Charte canadienne des droits, quand on l'applique strictement, ça vient en contradiction avec les droits collectifs desquels on s'est doté dans ce projet de loi-là. Le droit de religion au Québec, on considère que ce n'est pas absolu. C'est-à-dire que tu as le droit de pratiquer ta religion, mais la limite, c'est les autres, en fait. Puis c'est la laïcité du Québec, de nos institutions, etc.
L'exemple le plus frappant, c'est le port du kirpan. Ben, d'autres, on dit, tu porteras pas le kirpan ici au Québec.
En fait, puis la base, là, le consensus qui entoure le port des signes religieux, notamment, c'est sur les personnes en position d'autorité dans notre société, juges, policiers. Et la CAQ a inclus dans son projet de loi aussi les enseignants comme des personnes qui sont en position d'autorité. Mais ça, comme par exemple, si tu es enseignant, toi, tu dis, moi, c'est ma religion, c'est mon droit de pratiquer ma religion. Donc ça, c'est garanti par la Charte des droits et libertés canadienne. Donc, là, on a une contradiction entre les deux. Notre Assemblée nationale, bon, il y a un gouvernement majoritaire qui a été élu. Il y a d'ailleurs, puis ça fait pas nécessairement partie des considérations qui sont officielles, mais officieusement, il y a des sondages aussi régulièrement. Mm-hmm. Les gens appuient ce genre de mesures-là, sondage après sondage. La laïcité demeure populaire au Québec. Et il y a aussi un fossé un peu culturel entre le Québec et le reste du Canada sur ces enjeux-là. Au Canada, c'est pas du tout cette même vision. On voit les droits de religion comme étant là, quelque chose qui est inaliénable, auquel on ne touche pas nécessairement. Donc, sans surprise, ce projet de loi-là, cette loi, une fois adoptée, a été challengée devant les tribunaux. En fait, on conteste la loi. Plusieurs groupes, English Montreal School Board, Organisation mondiale Sikh du Canada, Conseil national des musulmans canadiens et un syndicat, la question des enseignants notamment, la FAE, qui considère qu'on contrevient, que c'est discriminatoire, en fait, qu'on contrevient à la Charte canadienne des droits. Donc là, on y est, parce que ça a passé plusieurs paliers, on est rendu où? À la Cour suprême. Le fédéral se mêle de cette cause-là. C'est pas eux qui contestent la loi comme telle, mais ils financent la contestation. Ça, c'est une première des choses. Et le point, en fait, hier, ils ont déposé leur mémoire. Donc, on avait leur argumentaire. Et ça se concentrait principalement sur la clause dérogatoire, pas sur la laïcité. Donc, on disait pas la laïcité, c'est mal, c'est discriminatoire, ça nous fait de la pépène.
Puis là,
ça.
C'est très stratégique, selon moi, de Mark Carney, qui a beaucoup d'appui au Québec. S'il se lance dans une guerre contre la laïcité, les appuis vont diminuer.
Probablement, mais je pense que personne n'est dupe, OK? Parce que là, le débat, c'est sur la clause dérogatoire. Quand on dépose un projet de loi qui contrevient à la Charte, le gouvernement du Québec, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite invoquer la clause dérogatoire. Mm-hmm. On n'attend pas des décisions des tribunaux. On n'attend pas d'avoir une contestation. C'est ce qu'on appelle l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. Et c'est ça qui est en cause devant la Cour suprême présentement. D'ailleurs, il y a d'autres provinces qui vont venir plaider pour le Québec, pas parce qu'ils sont d'accord avec notre loi sur la laïcité.
Juste parce qu'ils veulent garder leur clause dérogatoire aussi.
Parce que là, ce qui arrive, c'est que si on ne peut plus légiférer dans nos juridictions, dans nos différents parlements provinciaux, ben c'est pas seulement le Québec. C'est sûr que pour le Québec, c'est pratiquement une question de survie.
Oui.
Hein, quand on veut légiférer en matière de langue, notamment.
Exactement.
Quand on veut légiférer en matière de laïcité, ben il va y avoir des fois des contradictions avec la Charte canadienne. Donc, si on perd ce droit-là d'utiliser la clause dérogatoire de manière préventive, ça change le deal fédéral.
Oui, là, c'est papa fédéral qui décide de tout.
Bien, rendu là, on est extrêmement limité dans notre action. Puis la fédération, c'est un équilibre. On est à l'intérieur de la fédération. Le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc,
En 82.
Donc, il y a toujours un peu...
La nuit des longs couteaux.
Après ça, il y a Brian Mulroney qui a essayé de nous ramener dans le Canada.
Le lac Meech, ça n'a pas marché.
Donc, on est toujours dans cette zone grise. On fait partie du Canada, il n'y a pas de question là-dessus. Mais même les gouvernements libéraux qui ne sont pas nécessairement aussi nationalistes, qui ne sont pas pro-laïcité plus qu'il faut, vont défendre jalousement ce droit d'utiliser la clause dérogatoire et de ne pas avoir le fédéral qui fait des empiétements dans les juridictions des provinces. Donc, c'est ça qui est en cause présentement. Si la Cour suprême devait décider que les provinces ne peuvent plus utiliser la clause de manière préventive, ça risque de brasser. Là.
Puis, vraiment.
L'Alberta n'aimera pas ça beaucoup non plus.
Exactement. Ben, j'allais te poser la question, ça va-tu lancer un mouvement souverainiste autant au Québec qu'en Alberta?
Ça va l'alimenter, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Au Québec, en ce moment, on se rappelle, le PQ est premier d'un sondage pour un référendum dans un premier mandat.
C'est ça.
Déjà, le fédéral peut sentir un peu la soupe chaude.
Mais en Alberta, il y a quand même 30% de la population qui est favorable à l'heure actuelle. Donc, ils sont pas loin de balloter vers ça nous tente, nous autres aussi, d'être indépendants. Là.
Absolument. Puis, on rappelle, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef PQ, s'est allé faire un tour en Alberta la semaine passée.
Il a été très bien accueilli.
Mais c'est pas un hasard, là. On brasse un petit peu la soupe, là, ici, là, pour
Christiane nous écrit, l'Alberta et le Québec, même combat, qu'il l'eût cru.
Qu'il l'eût cru. Mais c'est ça, l'Alberta, on n'est pas dans les prétentions nationales. C'est pas une question, il n'y a pas de nation albertaine, mais on a vraiment des frustrations, des empiètements du fédéral. On a l'impression que on serait, en fait, que l'Alberta serait mieux développée, plus heureuse,
plus
finalement.
Plus profitable aussi.
Plus profitable aussi si on n'avait pas le carcan fédéral, alors qu'au Québec, il y a un aspect plus émotif, plus culturel, plus nationaliste, qui est un peu différent, mais il y a quelques intérêts en commun. Donc, l'Alberta va venir défendre cette position-là. L'Ontario aussi, d'ailleurs, il y en a d'autres provinces. C'est un nombre record d'intervenants dans cette course-là devant la Cour suprême. On est à 39 intervenants. Ça va être du solide. Pour ce qui est de Mark Carney, parce que là, tu posais la question.
Ben oui.
Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Moi, je suis désolée, là.
Vas-y. Explique-moi ça.
C'est que, c'est juste l'affaire de la clause de rogatoire. Non. Ils sont allergiques à nos lois.
C'est clair.
Sur la laïcité.
Ça, c'est clair.
Ils sont allergiques à nos lois linguistiques.
Oui.
Et le fossé est énorme. Là, on s'est trouvé un petit prétexte, là. Mais dans le fond, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de défendre la Charte canadienne des droits. Pour eux, c'est comme, vous comprenez, le bon Dieu, là, ça, cette charte-là. Mm-hmm. Là. Puis c'est important, les droits individuels. Mais à un moment donné, le droit de religion... Puis il y a comme une espèce aussi de différence de vision au Canada anglais versus au Québec sur ce qu'est une religion. Comme si... Il n'y avait pas une part de choix là-dedans. Là, c'est comme si tu naissais avec ton signe religieux et tu ne pouvais rien faire. Là. Tu peux
pas
l'enlever.
Tu n'es musulman, tu n'es catholique, alors que la religion, c'est un choix.
Mais pour eux, dire à quelqu'un d'enlever son signe religieux, c'est comme faire preuve de racisme. Ils l'associent, ils le mettent à la même hauteur. C'est de l'intolérance, c'est du racisme. Alors qu'au Québec... Puis là, évidemment, il y a des différences d'opinion. Là. Moi, je vous donne la mienne.
Oui.
Après ça, il peut y avoir différentes opinions. Mais on considère que la religion, c'est quelque chose que tu peux vivre en privé.
Exactement.
Que tu n'as pas nécessairement besoin d'imposer aux autres. Puis après ça, bon, il y a toutes sortes de nuances, mais au Canada, on n'a pas cette même vision qu'au Québec.
Non, puis moi, j'ai la vision vraiment du Québec également, là, je m'en cache pas, là. J'ai la vision d'une société qui va être laïque, et d'autant plus que, bon, on était une société catholique, ça n'a pas eu juste du bon, donc on est mieux de se séparer de la religion, selon moi.
Et c'est important ce que tu dis, parce que c'est ce que les Anglos, des fois, ne comprennent pas. Puis moi, je me tue, mais je vais faire souvent des chroniques chez les anglophones, à leur expliquer. C'est que nous, on a sorti la religion.
Oui.
Puis, oui, il y a encore des gens qui sont croyants, mais très peu là, au Québec.
Oh, exactement.
Là. Et il y a une espèce de traumatisme. La religion catholique contrôlait toute notre société jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, c'est pas contre votre religion, l'espèce d'allergie que les Québécois ont. C'est contre la religion en général.
Ben oui.
Puis on est aussi une nation qui est très féministe. Bon, c'est pas parfait, là, mais si vous comparez avec les autres nations du monde, l'égalité homme-femme au Québec, c'est quand même pas si mal. Hein, quand on se compare, on se console.
Clairement.
Je pense que ça fait aussi partie de l'allergie par rapport à toutes les religions, pas seulement une en particulier. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une peur de perdre des acquis pour les femmes, puis ça aussi, ça fait partie de l'explication.
Beaucoup d'ouverture à la science aussi au Québec, que je trouve, comparativement à d'autres nations. Je pense que ça vient expliquer aussi pourquoi on n'embarque pas dans ce dogme de la religion-là. Là. Donc,
Puis d'ailleurs, tu sais, je veux pas trop bifurquer, mais la semaine passée, c'était la Journée mondiale de prévention du suicide. Puis parmi les explications pourquoi le taux de suicide est très élevé au Québec, on peut identifier la sortie complète de la religion tout à coup de notre société, une perte de repères puis de spiritualité aussi. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans, mais cela étant dit, c'est une différence culturelle importante. Donc, quand je vois le gouvernement fédéral faire semblant que c'est juste une technicalité de clause dérogatoire, c'est beaucoup plus profond.
Quand on vit des épreuves, que ce soit la maladie ou autre, quand on va questionner ces gens-là, puis surtout en Géronto, là, avec les personnes âgées, là, quand les psychologues y vont, là, ils se rendent compte que des fois, il y a un relent de la religion la fin des jours parce que la quête de sens, de comprendre pourquoi ça leur arrive, qu'est-ce qu'il va avoir après, vient raviver cette flamme religieuse-là. Puis je la trouvais super intéressante, la parenthèse, à quel point ça peut jouer psychologiquement. Puis je me demande au Canada, petite question pour toi, Antonine, est-ce qu'on y tient mordicus et on préserve et ça devient une question identitaire ou presque là, dans pan-canadien, la religion, parce qu'on veut justement pas qu'elle sorte de nos vies, donc on lui donne un genre de non, d'importance?
C'est pas la religion, c'est la liberté. C'est la liberté de religion qui est en question ici. Puis vraiment, c'est quelque chose qui voit comme étant là, intouchable, inaliénable, ce droit à la religion. Chacun vit sa religion comme il l'entend, sinon c'est comme une forme de discrimination. Mm-hmm. Okay. On n'a pas tout à fait la même vision. Notre vision ressemble plus à celle qu'on verra en France, par exemple. Puis si vous vous transportez au Royaume-Uni, vous allez voir, c'est un peu la même vision que le Canada. Et ça donne lieu à énormément d'accommodements religieux. Puis vous irez voir la question des tribunaux parallèles en
les
ce moment.
Les fameux accommodements raisonnables également.
Raisonnables entre guillemets.
C'est ça, exactement. Hey, on continue dans le Canada avec Mark Carney qui est en visite au Mexique. Moi, je dis toujours trop peu, trop tard. Ça fait depuis le 20 janvier que Donald Trump est arrivé pour être en visite au Mexique aujourd'hui, le 18 septembre. Il me semble que ça aurait dû être fait avant.
C'est un peu tard et on se comptera pas de mentir, là, on s'en va réparer des pots cassés.
Oui, hein?
Les Mexicains sont pas contents après nous autres. Je sais pas si vous êtes.
C'est Doug Ford hein, qui avait mis le feu aux poudres.
Notamment, mais Justin Trudeau aussi. C'est que dans le fond, quand Trump est revenu à la Maison-Blanche, il a commencé ses tribulations là, entourant les tarifs, la réaction canadienne, ça a été très individuel. Ça a été « OK, on va faire un accord avec les États-Unis », laissant de côté complètement le Mexique.
T'as raison.
Et ça a beaucoup insulté les Mexicains. Et surtout, les premiers tarifs, rappelons-nous, là, c'est des questions de fentanyl. Puis il y a été aussi question, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben le problème avec la drogue, c'est pas le Canada, c'est le Mexique. Tu sais, il y a pas mal de ceux qui ont été cassés sur leur dos aussi. Donc, Mark Carney s'en va pour une courte visite de 24 heures, rencontrer la présidente mexicaine, va avoir un dîner de travail. 24 heures, ça me semble pas suffisant pour nécessairement
moi non plus
tout réparer, mais bon, c'est déjà un début. Puis effectivement, là, tu l'as dit, Doug Ford, là, qui, honnêtement, c'est ce que je retiens. Tout ça, c'est que Doug Ford, il parle beaucoup. Il ne s'attache pas toujours avec le gouvernement fédéral, ce que je respecte, là, les provinces.
Oh oui.
Mais quand il est question de politique internationale, même si je ne suis pas toujours contente contre le gouvernement fédéral, même si je suis nationaliste et que je pense que le Québec, notamment, doit parler de sa propre voix, quand il est question de relations internationales, là, il faut qu'on parle un petit peu tous de la même voix. Il faut qu'on s'entende à l'interne et qu'après, on aille faire des interventions à l'externe. Doug Ford est très cow-boy, très agressif. Je ne veux pas qu'on se couche devant un Donald Trump, mais il ne faut pas non plus prendre un bâton puis piquer constamment. Mais c'est un peu la même chose aussi avec cet impair diplomatique avec les Mexicains. Disons qu'on est en train un peu de réparer les bêtises de Doug Ford.
Puis est-ce que Donald Trump, justement, nous a mis de la pression au Canada parce qu'il a toujours ouvert plus la porte au Mexique qu'au Canada? Donc, c'est pour ça que je dis trop peu, trop tard. J'ai l'impression que le Canada aurait dû tenter de créer cette alliance-là avant.
Bien, le Canada se retrouve isolé. Hein. Quand on fait un peu le tour de la cour, on n'a pas pris beaucoup de temps pour essayer de faire une entente, en fait, de s'entendre avec le Mexique pour faire un front commun. Les Mexicains aussi ont leurs propres intérêts à défendre. Ce qui arrive dans ce temps-là, quand on est en crise, là, c'est aussi on se resserre autour de nos intérêts. Puis c'est un peu le premier réflexe et c'est dans la normalité. Quand on regarde aussi... bon, on regarde le Royaume-Uni, je m'excuse, je ris, mais le premier ministre... britannique là, qui est dans un festival de lichage de Donald Trump qui lui donne tout ce qu'il veut à peu près qui en paiera peut-être un jour le prix politique. Il y aurait eu moyen de faire, je trouve, un front commun à un moment donné.
Ouais.
Mais là, tout le monde joue un peu son jeu, chacun de son côté. Évidemment, les Mexicains ne sont pas dans la même position que le Canada non plus. Là. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas le poids face aux États-Unis, mais le Mexique aussi là, vit une très, très grande dépendance avec les États-Unis.
J'avais senti qu'ils s'entendaient un peu mieux, puis même qu'ils s'en sortait mieux, en fait, que nous dans ces discussions-là.
Il accepte beaucoup plus de choses aussi.
Il s'assoit beaucoup plus face à Donald Trump.
Ils n'ont pas le choix.
C'est,
là. C'est notamment très rapidement, quand il était question du fentanyl, là, c'est une espèce de faux prétexte pour les tarifs. C'est un vrai problème, le fentanyl, mais quand ça arrive de la bouche à Donald Trump, on est un peu sceptique. Le Mexique, très, très rapidement, là, ils ont fait toutes sortes d'affaires pour lui faire plaisir. Nous aussi, là, mais le Mexique aussi, là, très, très rapidement.
Parlant de Donald Trump et de gens qui s'assoient devant lui, Keir Starmer, premier ministre de la Grande-Bretagne, c'est l'allié faible européen.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Écoute,
il est même rendu qu'il défend le fait que Jimmy Kimmel a été congédié à côté de Donald Trump. Là, il se passe quoi avec le Royaume-Uni? Là?
Mais c'est gênant, honnêtement. Puis, encore une fois, je répète, on veut pas provoquer, on veut pas manquer de respect. Non, parce que même si on n'aime pas toujours Donald Trump, ça demeure que c'est l'institution, c'est le président. Oui. Donc, on n'a pas à le recevoir. Là, il était en voyage en Angleterre. On le reçoit comme un roi. Et on fait de la fête. On le flatte dans tous les sens, là, Donald Trump. Tu sais, il y aurait moyen de le recevoir convenablement sans être dans ce festival de flagornerie, là. Mais c'est vrai qu'avec Donald Trump, la flatterie, ça fonctionne. Donc, ça donne un résultat instantané qui peut te donner l'impression que tu es en train de faire des gains.
Il semble avoir des traits narcissiques, puis les gens ont compris, donc ils vont flatter là. Puis honnêtement, c'est grossier tellement que ça fonctionne.
Ah, il aime ça.
C'est grossier.
Il adore ça. Par contre, concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme gain au Royaume-Uni?
Bien, ils ont des tarifs quand même. Eux, ils se vendent qu'ils sont réduits, mais ils ont des tarifs quand même. La guerre en Ukraine, la violence est plus forte que jamais. Et ça, la guerre en Ukraine, c'est un problème énormément européen, parce que si la Russie fait des gains en Ukraine, qui dit qu'elle fera pas des gains ailleurs? On a jusqu'à à penser à l'espace aérien de la Pologne qui a justement été violé par la Russie. Donc, il y a pas de gains.
Le président français, il ne critique pas ouvertement le premier ministre britannique, mais on le sent qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde sur l'approche à adopter par rapport à l'Ukraine quand il parle avec Donald Trump. Avec Donald Trump, Emmanuel Macron a une ligne plus dure, qui est quand même polie, qui est pas dans la provocation, qui est dans un certain apaisement, mais on a l'impression qu'il se couche pas à terre puis dit « Ben oui, Donald, t'as tellement raison. Puis mon Dieu, puis merci de tout ce que tu fais pour la paix dans le monde. » Parce que c'est ça là, le message que Starmer lance en ce moment. Le roi Charles III aussi a salué les efforts de paix.
La paix dans le monde. Ça n'a jamais été aussi violent en Ukraine, ça n'a jamais été aussi violent en Israël puis Gaza.
Ouais.
Je ne sais pas où on voit la paix dans le monde.
Mais non, mais c'est ça. Puis c'est pas nécessairement de la faute de Trump. Là. Non, dans son premier mandat, il n'y avait pas énormément de guerre et tout ça, mais c'est parce qu'il a dit qu'elle allait régler ça en 3 minutes et quart. Pas ça qui se passe présentement. Il veut un prix Nobel de la paix. C'est comme, on dirait qu'on est dans une comédie. Mais pour en revenir aux gains que Starmer a fait ou n'a pas fait, les tarifs sont encore en vigueur. Oui, c'est pas les plus élevés, mais c'est quand même sur des secteurs très stratégiques, notamment l'acier au Royaume-Uni. Ils ont fait aussi des ententes d'investissement croisés. Donc, le Royaume-Uni va dépenser de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis vont en dépenser au Royaume-Uni. Mais ce ne sont pas des gains substantiels qui justifient pour l'instant de se coucher par terre et d'avoir finalement vendu son âme, ni plus ni moins.
T'es l'Angleterre vend présentement son âme aux États-Unis, ce qu'elle a refusé de vendre à l'Union européenne.
Ben, absolument. C'est ça qui est vraiment très, très étrange. Puis, tu sais, quand Mark Carney a enlevé les contre-tarifs.
Oui.
Il a dit, on est tout seul, là, les amis, là. On est tout seul à avoir des contre-tarifs. Mais c'est un peu ça aussi. C'est une fois que le Royaume-Uni se couche par terre, une fois que le Mexique et que tous nos alliés potentiels, il y a juste la Chine, finalement, qui avait vraiment des mesures de représailles contre les États-Unis. La Chine, c'est pas exactement notre allié.
Ben c'est ça. Est-ce qu'on veut s'allier à la Chine? La réponse est non. Là. Ça reste quand même un régime totalitaire. Là.
Donc, on aurait préféré s'allier, disons, au Royaume-Uni pour faire un front commun plus fort. Mais front commun, il n'y en aura point. Voilà.
Non, exactement. Antonine, je veux te faire réagir sur, avant qu'on parle des médecins, et je vous rappelle, vous êtes dans le caucus Iacarini du lundi au jeudi de 12h30 dans l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Je veux te faire réagir sur des propos d'Étienne Grandmont en entrevue avec Maxime Larouche dans le Point de Max qui est de 10h à midi sur les ondes de Boulevard. Il parle de l'immigration, vient juste d'en parler avec justement cette contestation-là de la clause dérogatoire. Donc, je te fais entendre ce qu'Étienne Grandmont avait à dire à propos de François Legault et de Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'immigration.
Là, on s'en va dans un monde où finalement, là, les trois partis principaux, parce qu'ils ont décidé d'alimenter, par exemple, une rhétorique, le PQ puis le PCQ, une rhétorique anti-immigration, en mettant la faute de tous les problèmes du Québec, notamment en logement, en habitation, là, sur le dos des immigrants. Mais la crise du logement, elle existe depuis bien avant les immigrants. Là. Puis l'immigration n'est pas si présente que ça à Val-d'Or puis à Gaspé. Il y en a, mais pas comme à Montréal, à Québec puis à Laval, tu sais. Et pourtant, il y a des crises du logement aussi là-bas. Ouais. Fait qu'on alimente volontairement des problématiques qui n'en sont pas vraiment. Puis après ça, on se surprend que des sondages disent que les gens veulent qu'on contrôle mieux l'immigration. Je veux dire, ces élus-là, actuellement, là, je vais les nommer, là, je vais dire François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, ont des discours franchement dangereux sur l'immigration. Puis ça alimente une perception de la population que c'est ça la réalité.
Antonine, est-ce que c'est un discours franchement dangereux de François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon?
Je vais avoir une réponse un peu nuancée sur la question parce que bon, j'ai entendu cette semaine la sortie de Kim Thuy, qui était très émotive, cette autrice là, qu'on connaît bien, d'origine vietnamienne, issue d'une vague d'immigration vietnamienne au Québec. D'ailleurs, une communauté qu'on salue, là, qui fait partie vraiment du Québec puis qu'on adore. Elle était très heurtée par les propos sur l'immigration dans les dernières années. On sent effectivement que c'est des partis nationalistes là, qui sont pointés du doigt. C'est vrai qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Il y a une manière de dire les choses. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Il faut aborder ces sujets-là. Ça ne peut pas être un tabou, l'immigration. Non. Et je veux dire, mathématiquement, c'est vrai que si on a une crise du logement et qu'on a 30 000 demandeurs d'asile par année plus 55 000 immigrants permanents qui arrivent par année, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même regarder cet enjeu-là rationnellement et se dire qu'on a un enjeu. Après ça, on a une crise de services publics aussi en ce moment. On manque de place en garderie, on attend très longtemps à l'urgence. C'est pas de la faute des immigrants. C'est notre faute si on a un système tout croche, là. Soyons bien clairs. C'est
qu'on les accueille et qu'on les encadre pas comme il se doit puis qu'on leur permet pas justement de participer à un système qui est rodé. Mais il n'est même pas rodé pour nous.
Mais en fait, c'est ça. Moi, je n'ai pas entendu personne dire ça, c'est de la faute des immigrants. C'est juste que c'est un défi. On a un défi démographique
mais
en ce moment.
Mais il y a des gens dans la population qui pensent que c'est de la faute des immigrants.
Sûr.
C'est pour ça que c'est sensible. Mais le point est, il faut l'aborder.
Ça, c'est
justement
ce qu'on appelle du dog whistle. C'est-à-dire que tu ne dis pas que c'est de la faute des immigrants, mais tu fais des petits clins d'œil aux gens qui pensent que c'est de la faute des immigrants. Mais là, rendu là, je veux dire, d'avoir des débats rationnels sur c'est quoi notre capacité d'accueil, finalement. Puis, en passant, c'est vrai que dans les années 90, on disait que les immigrants, ils volaient les jobs. Puis, ça serait facile maintenant de dire les immigrants, ils volent les logements. Donc, il faut faire attention quand on prend la parole là-dessus. Puis, le premier ministre n'a pas toujours été bon, mais je trouve que c'est amélioré en passant. Maintenant, il dit, je parle pas contre les personnes. On veut bien les accueillir aussi, mais on a un enjeu. On reçoit trop de gens, puis les seuils d'immigration qu'on se fixe, ils sont doublés par une autre immigration absolument incontrôlée, qui est l'immigration temporaire. Ça fait des années que le gouvernement demande à Ottawa qu'on trouve des moyens de réduire le flot de demandeurs d'asile. Et il n'y a rien qui a bougé pendant des années. Ils se sont réveillés l'année passée, là, à peu près. Là, juste avant, pendant l'automne dernier, il y a eu quelques éléments qui ont été mis en place. Mais de dire que c'est un discours qui est dangereux, je trouve qu'on ajoute à la polarisation. C'est-à-dire que tu dénonces une polarisation que finalement tu alimentes toi aussi. Donc, la gauche aussi doit faire attention aux mots qu'elle utilise. Puis de dire des choses comme « on sait bien, la CAQ met tout sur le dos des immigrants ». C'est aussi exagéré que dire ben on a une crise du logement parce qu'il y a trop d'immigrants. Finalement.
En effet, des deux côtés, c'est exagéré. Je pense que Jean-François Roberge reprend bien ce dossier-là à l'heure actuelle, justement fixant des seuils mathématiques par rapport aux places en garderie, par rapport aux places dans les écoles, par rapport à la crise du logement. Je trouve que son approche est plus analytique que ce qu'on a entendu. Alors, j'étais bien content de le voir nommé à nouveau là, au niveau de l'immigration.
Oui, puis il reste encore énormément de défis en immigration dans l'année à venir. On sent aussi une plus grande ouverture du fédéral parce qu'il y avait une confrontation tellement grande avec Justin Trudeau. Mark Carney a l'air un peu moins idéologique aussi sur la question.
Ça a polarisé le dossier aussi, le fait que Justin Trudeau, je vais dire comme ça, est un apôtre du multiculturalisme et qu'au niveau du Québec, on tentait justement de rationaliser l'immigration pour faire en sorte que ça explose pas trop dans nos services publics.
On se faisait quasiment traiter de raciste quand on disait, tu sais, peut-être que c'est un peu trop en ce moment. T'sais. Non, c'est pas du racisme de dire ça. Mais bref, je t'ai donné une très, très longue réponse parce que justement, je trouve que c'est un enjeu qui demande de la nuance.
Cette nuance-là. Et d'ailleurs, on a un auditeur qui nous écrit, c'est une des causes dans un problème multifactoriel, mais non la cause. Je pense que ça résume bien également. Je te fais écouter Christian Dubé qui a changé complètement de ton avec les médecins tout à l'heure lorsqu'il entrait au caucus des députés de la CAQ en scrum avec les journalistes.
Il reste au moins deux bonnes semaines, et c'est là que je demande, je dis clairement aux deux fédérations, la balle est dans votre camp. Nous, au gouvernement, on est rendu à la troisième proposition. Là. Puis une troisième proposition dont récemment on a fait des avancées qui sont importantes, dont vous allez pouvoir prendre connaissance. Mais là, la balle est dans le camp des fédérations de venir s'asseoir et de dire, voici ce qu'on est prêt à faire. Parce que c'est trop facile de dire, on n'est pas capable de parler parce que le projet de loi 106 est là. Et je veux juste être clair, j'ai même dit dans les discussions qui ont eu lieu au cours des derniers jours que le projet de loi 106 est bonifiable. J'ai toujours dit. Alors donc, en terminant, il reste plus que deux semaines, si les gens viennent à table, bien, à ce moment-là, on pourra avoir des discussions. Puis quand on rencontrera lorsqu'on reviendra en commission parlementaire, bien, on pourra faire les amendements nécessaires. Alors, j'invite les fédérations à venir aux tables de négociation pour les prochaines semaines.
Madame Biron,
c'est un changement de ton majeur. Et là, la balle est dans le camp de la Fédération des médecins spécialistes et de la Fédération des médecins omnipraticiens, parce que si on ne va pas s'asseoir à la table, l'odieux va leur revenir.
Tu n'as pas l'air de bonne foi si tu ne viens pas te rasseoir
exactement
à la table. Donc, c'est habile là, de la part de Christian Dubé. Hein, c'est un jeu, les négociations oui comme ça dans l'espace public. Là, on met de la pression, on n'est pas fin. Après ça, on lève un peu le pied puis on dit « Ah, je vais bouger un petit peu oui ». Christian Dubé qui dit qu'il est prêt à bouger, hein, parce qu'il y a, oui, des, il y a des cibles qui vont être associées à une partie de la rémunération. Il s'est dit prêt à faire des ajustements. Mais en échange, il va demander évidemment certaines choses aux
exactement
médecins.
Exactement. On parlait de 25 % sur la performance. Apparemment qu'on serait rendu à du 15 %. Mais une place, et on termine avec ça, une place où il a dit qu'il allait bouger, c'est sur les heures pour les blocs d'opération. On l'écoute.
L'ensemble. Engagement pour ouvrir des salles d'opération parce que
ça, c'est un
manque de personnel, salles d'opération fermées. Vous avez une responsabilité aussi de leur donner des outils
tout à
pour
fait
travailler.
Tout à
et
fait.
Vous ne respectez pas votre engagement actuellement.
Oui, on va respecter notre engagement.
Non, pas actuellement.
Monsieur Laforêt, je veux juste terminer, si vous permettez. Le principe qui est demandé d'avoir des engagements, on est d'accord avec ça. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir des engagements pour qu'ils puissent performer, pour qu'ils puissent, exemple, opérer. Prenons un exemple. Ils nous demandent d'ouvrir plus de salles. Disons qu'on a 400 salles qui sont ouvertes en ce moment. Bien, il y a deux approches, puis c'est ça que j'ai demandé à Santé Québec. On peut soit ouvrir plus de salles ou d'augmenter les heures. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on fait 400 000 heures d'opération ou 425 000 heures d'opération. Et c'est là que, si on s'assoit à table puis qu'on dit voici l'engagement qu'on pourrait prendre à ouvrir les heures, en autant que tout le monde soit là, on n'a peut-être pas besoin de plus de salles, mais on pourrait avoir plus d'heures pour opérer. Mais si on n'est pas assis aux tables pour avoir cette discussion-là, alors nous, on va faire une proposition qui sera la meilleure possible quand on rentrera en chambre au début d'octobre.
Bref, assoyez-vous à table si vous voulez. Quand on rentre en chambre au début octobre, il y a des amendements au projet de loi.
Il y a la
c'est tout simplement ça.
Et qui gère.
Oui, t'as raison.
Je suis dans sa voix.
As-tu les yeux aussi que
mais
Christian
puis le pire, c'est qu'il travaille très fort. Là. Je pense qu'Antonine, tu l'entends aussi dans les corridors puis les gens qui donnent l'info politique et que c'est pas facile la santé.
Non, effectivement, c'est un dossier qui est difficile. L'affaire avec les médecins, présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'émotivité. Mmh.
Oui.
Ils sont comme insultés, permanent insultés. D'ailleurs, chaque fois que je prends la parole, ces médecins, je reçois un paquet de courriels en passant. Là,
oui,
parce
hein?
que je
comme quoi, tu es dans le champ, tu comprends pas.
On comprend rien. On comprend jamais rien. Là. Soyez bien assurés que c'est pas
de là, moi, j'ai bien compris qu'il faut qu'ils s'assoient à la table des négociations.
Oui, puis ils devraient faire une couple d'entrevues aussi, ces médecins. Parce que juste chialer sur les gens qui font du commentaire, à un moment donné, ça fait pas. Venez expliquer aux gens comment ça se passe.
Et on ouvre toujours la porte.
Toujours,
on le dit depuis des semaines au 88-971-102.
Moi, encore cette semaine, j'ai fait des demandes d'entrevue autant à la Fédération des médecins spécialistes qu'à la Fédération des médecins omnipraticiens. On me dit, on s'en tient au communiqué qu'on envoie. Alors là, si vous voulez pas venir débattre, les amis, c'est votre problème.
Bien, il devrait, parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Puis toute la question des salles d'opération, des blocs opératoires, c'est hyper important. J'en sais quelque chose, j'attends une chirurgie, ça va être vraiment long. Mon médecin, elle est prête à m'opérer, c'est pas ça. Mm-hmm. Elle dit, on a énormément de retard, j'ai pas d'infirmière. Mm-hmm. Je n'ai pas d'infirmières. Donc, il y a du vrai dans ce que disent les médecins aussi. L'affaire, c'est que les médecins sont tellement rendus fâchés que là, ils veulent un arbitrage. Donc, ils ne veulent pas retourner à la table de négociation. Ils veulent un arbitre, comme ça se fait ailleurs, d'ailleurs, ouais, au Canada pour les médecins, ce que Christian Dubé ne veut pas, parce qu'il y a certains éléments sur lesquels, vraiment, il ne veut pas bouger.
Il veut garder la pogne.
Il ne veut pas laisser ça à un arbitre mm-hmm. comme tel. Mais à la fin de la journée, il va falloir qu'on trouve une solution où on va avoir écouté ce que les médecins disent aussi. On ne peut pas juste leur enfoncer dans la gorge parce qu'on n'y arrivera pas. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux de système autour d'eux aussi qui ne fonctionnent pas bien.
Clairement, il faut leur donner des conditions gagnantes avec des heures d'opération, avec des infirmières spécialisées qui vont appuyer les médecins de famille.
Il faut les écouter parce qu'effectivement, ils sont sur le terrain. Puis moi, j'ai des amis beaucoup qui sont en santé. Puis actuellement, la crise est importante au niveau des infirmiers et infirmières. Là, ils sont terrain-té. Puis en plus, ça commence à chicaner avec les médecins. Fait que là, t'es un gros bourbier, là. Le gros bourbier est là.
Puis une autre pomme de discorde, c'est que, dans le fond, le gouvernement dit qu'il faudrait que les médecins travaillent plus. Et les médecins disent qu'ils ne peuvent pas travailler plus. Il manque de médecins. Donc ça, là-dessus, on ne s'entend pas. j'ai un peu de mal à croire que on peut pas, c'est impossible de faire travailler un peu plus différemment. Non. Surtout si on leur donne les conditions gagnantes, qu'on améliore le système aussi autour d'eux.
Exactement, moins de paperasse, moins de bureaucratie. Exactement. Il y a moyen d'avoir des voies de passage. Antonine Iaccarini, merci beaucoup pour ce segment du Caucus Iaccarini. On te souhaite un bon long week-end et on se reparle lundi.
À lundi.
Cool. Après, justement, cette courte pause, circulation avant, Pascal?
Oui, trafic d'enfer dans le Bourgneuf. Là, on vient de parler à notre collègue Denis Gravel qui est pris là-dedans. Sortie Laurentien Sud, c'est barré sur Louis XIV. On fait faire un détour vers les Gradins. C'est en entonnoir, donc là, ça congestionne. Les travaux sur le Bourgneuf plus l'accident de ce matin sur Pierre-Bertrand, ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Puis je vous rappelle l'accident sur Pierre-Bertrand. C'est un homme âgé dans la quarantaine qui a été grièvement blessé à la tête. En fait, ce qui s'est passé, c'est un face-à-face avec un camion Ben. Alors, impact qui est arrivé sur le boulevard Pierre-Bertrand, mais non loin du boulevard Le Bourgneuf, vers 6h10, puis on a encore des relents de tout ça.
Après cette courte pause, on parle avec Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal, des gens qui quittent l'urgence, plus de 11% des patients au Québec. Et on va également parler d'une baisse drastique au niveau des exportations, notamment dans le domaine de l'aluminium. Restez avec nous, vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.